Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Émilie Gaillard, je suis maître de conférence HDR en droit privé. J'enseigne à l'Institut d'études politiques de Rennes, où je suis également co-directrice des relations internationales. Et j'ai lancé un nouveau parcours de grade master, donc les étudiants sont là, vous pouvez lever la main. Grade master Génération Future et Transition Juridique, ils sont là, ils ont un peu, ils veulent pas se faire remarquer. Mais vous êtes plusieurs étudiants de plusieurs promotions, et c'est pour ça que je vous demandais de se lever la main, parce que d'autres vont lever la main. On a aussi le master...
Green ! Ouais !
Vulnérabilité, ils sont où ? Ah, ils se cachent, ils sont comme les miens, disent non, c'est bon. On est très contents de recevoir aujourd'hui, parce que c'est un peu comme une famille. Donc Louise, lève-toi s'il te plaît. Louise, qui vient du Canada, de l'université de l'UQAM, qui est venue incognito, mais on est tombé nez à nez avec elle au restaurant, sachant qu'on a une longue histoire aussi avec Marie-Monique.
Une histoire d'amour.
Voilà, une histoire d'amour. C'est la même famille qui aujourd'hui vous réunit, chers étudiants, à la fois de Sciences Po, de Sociologie, de France, et aussi une petite pensée à ceux de l'UQAM. Parce qu'en fait, nous sommes une famille de chercheurs aussi qui œuvrons sur la question du risque transgénérationnel, aussi de la société du risque, du thème de la catastrophe. Et ensemble, dans notre recherche, eh bien, nous tissons aussi des liens humains très forts avec des chercheurs, des amis. Et dans cette grande famille, figure bien évidemment Marie-Monique Robin. Marie-Monique Robin, merci infiniment d'être là. Bienvenue à Caen. Marie-Monique est journaliste d'investigation, documentariste, réalisatrice et écrivaine. Elle est titulaire d'une trentaine de prix internationaux, dont le prix Albert Londres, qui est un peu l'équivalent du concours de la presse, et le prix Rachel Carson, donc vous connaissez bien l'ouvrage Silent Spring, Printemps silencieux, ouvrage qui a été une forme de lanceur d'alerte, qui était vraiment, si nous ne prenons pas soin de notre nature, observez, le DDT, les produits, les pesticides sont en train de tuer le vivant qui nous entoure. Marie-Monique Robin est également chevalière de la Légion d'honneur, qui a été remise à Notre-Dame-des-Landes, qui fut un moment très fort.
C'est surtout ça qu'il faut retenir, à Notre-Dame-des-Landes.
Pour faire un petit coup d'œil aux institutions. On peut dire qu'elle a plusieurs grandes familles de films, mais le fil conducteur reste le même. Le fil conducteur reste les droits humains. Les victimes de dictature, l'alimentation, tout ce qui concerne autour de la question de l'écologie et de l'environnement constitue le fil conducteur de tous ces films, de ces ouvrages. Alors, parmi certains de ces films, il y a Voleur d'organes, où elle a investigué en Colombie, en Argentine, au Mexique et aux États-Unis sur tout ce qui était trafic d'organes à une époque où on n'en parlait pas, ce qui lui a valu également des menaces, voire des interdictions de territoire. Également, Escadron de la mort, l'école française, qui n'hésite pas à dire la vérité sur comment l'école française a participé à des dictatures en Argentine et au Chili. Elle a donc aussi des films plutôt lancés dans le thème de lanceurs d'alerte, c'est le cas avec Le Monde selon Monsanto, qui date de 2008, et ce qui nous a réunis, le round-up face à ses juges, dans cette magnifique expérience à laquelle j'ai pu participer du Tribunal international citoyen sur Monsanto, qui s'est tenu à La Haye en 2015-2016. Et puis il y a aussi lanceur d'avenir. Lanceur d'avenir, c'est-à-dire véhiculer des messages porteurs d'espoir, les moissons du futur, sacrée croissance, comment développer aussi, qu'est-ce qu'on attend, comment on peut investiguer des alternatives au modèle dominant, au modèle économique dominant, et ouvrir aussi, donner des pépinières positives d'avenir. Donc quand on vous dit, dans la lignée de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, et bien...
There is no alternative, Margaret Thatcher, 1981.
Eh bien, elle vous répond, si, il y a d'autres alternatives. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est cet ouvrage. Alors, d'habitude, Marie-Monique, elle fait un film, et après, son éditeur lui dit, maintenant, je souhaite l'ouvrage. Et
là, en fait, je fais les deux en même temps, mais le film est le premier, parce que ça me permet de rencontrer les gens, voyager, et après, de nourrir le livre.
Voilà.
C'est ce que je fais d'habitude.
Sauf que là, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Bah non.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement, Et elle va vous raconter comment elle en est venue à écrire un livre de confinement qui s'appelle « La fabrique des pandémies ». Fabrique des pandémies qui nous permet de comprendre toutes les interactions avec tout ce qui est les enjeux environnementaux, globaux, déforestation, crise de la biodiversité et la pandémie que nous traversons. C'est aujourd'hui pour moi un immense honneur et plaisir de la recevoir. Si j'ai demandé à mes étudiants de lever la main, c'est parce que cette année, nous allons explorer et expérimenter la transposition de cet ouvrage avec certains des universitaires qu'elle a interviewés en cours universitaire, car j'ai la conviction profonde qu'aujourd'hui, quelle que soit notre discipline, médecine, on doit faire la médecine environnementale, sociologie, Sciences Po et bien d'autres disciplines, y compris juridique, droit de la santé, vous avez tous vocation à développer des éléments de connaissance dans ce domaine. Donc je laisse de suite la parole à Marie-Monique. Je crois que je vais rejoindre mes collègues, ma famille, mes amis. Bienvenue à Marie-Monique. Alors je le dis de suite, vous avez une quarantaine d'exemplaires avec table et dédicaces qui sont prévues à la fin. 8 sont déjà réservés pour mes étudiants et un 9e pour Mireille Delmas-Marty. Donc il y en a 9 déjà pour moi. Mais en tout cas, si vous souhaitez avoir à la fin une dédicace, ce sera le moment de le faire. Merci beaucoup au Brouillon de Culture pour votre présence et toujours votre participation. Merci à Michel Dobré. Michel, grâce à toi, on a l'amphithéâtre, on est co-organisatrice de cet événement. Merci à Frédéric Lemarchand, co-directeur du Pôle Risque avec qui nous travaillons toujours de concert pour ce type de conférence. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Profitez-en parce que vous avez beaucoup de chance. Marie-Monique, the floor is yours.
Thank you very much. Ok, alors j'ai l'habitude de commencer par une petite histoire. Et écoutez bien parce que je vous demanderai quelle est la leçon de cette histoire. Ça ne va pas prendre longtemps. Hein. Alors, dans les années 1990, la population des vautours en Inde s'est effondrée. La cause, l'utilisation massive d'un anti-inflammatoire, le diclofénac, administré au bétail, qui s'est avéré mortel pour les charognards. Au pays des vaches sacrées, les carcasses sont traditionnellement abandonnées aux rapaces qui constituent des éléments clés des écosystèmes, car ils aident ce qu'on appelle les détritivores, donc ceux qui bouffent la charogne, hein. Ça peut être des bactéries, des champignons ou des vers, et donc à transformer les matières organiques des cadavres après leur dépeçage. L'extermination des vautours, 95% des vautours d'Inde ont disparu à ce moment-là, a entraîné une accumulation de carcasses de bovins, puis une prolifération des chiens errants, principale source de transmission du virus de la rage. Entre 1996 et 2016, le diclofénac a ensuite été interdit dans l'utilisation pour le bétail, l'épidémie de rage due à l'usage de cet anti-inflammatoire a causé au moins 30 000 morts par an. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire? Alors, moi, j'ai appelé... Personne n'a une petite idée? Moi, j'ai appelé ça « Comment les vautours protègent les humains de la rage ?» Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Toutes ces interactions qui font que quand on perturbe une partie de l'écosystème, il peut y avoir des... C'est l'effet papillon, hein, des effets en chaîne. Voilà. Alors, pour faire ce livre, Émilie l'a dit, moi, pour moi, ça a commencé en janvier 2020. Je suis tombée sur un article du New York Times fait par un collègue scientifique, journaliste américain, qui disait « We made the coronavirus epidemic ». C'est nous qui avons fait l'épidémie de coronavirus. Et le « nous », c'était évidemment les humains. Et je me suis dit « Tiens, c'est quoi cette histoire ?» Et moi, vous savez, dans la vie, je suis journaliste, comme elle l'a dit, Émilie, mais je tricote. C'est-à-dire que j'aime tirer les pelotes. Je tricote dans la vraie vie et puis je tricote. Voilà, et j'ai commencé à faire une recherche sur Internet, hein, et puis j'ai découvert que depuis le début des années 1990, les scientifiques parlent de maladies infectieuses émergentes, n'est-ce pas? Et qu'elles sont émergentes parce qu'elles n'existaient pas avant ou parce qu'elles avaient disparu et qu'elles réapparaissent. D'accord? Alors parmi elles, la liste est très longue parce que nous sommes très très concentrés sur cette pandémie de coronavirus, mais vous allez voir qu'en fait, il y en a eu bien d'autres avant. Alors, le sida, par exemple, c'est une maladie infectieuse émergente, hein, d'origine zoonotique, hein, donc ça veut dire qu'il est d'origine animale, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi le premier SARS en 2003, premier coronavirus, n'est-ce pas? Vous avez le Zika, le Chikungunya, le Nipah, le MERS, la liste est très très longue. En fait, l'OMS estime que jusqu'au milieu des années 1970, il y avait une nouvelle émergence tous les 15 ans. Très souvent, ces émergences étaient d'ailleurs dues à des bactéries qui devenaient résistantes aux antibiotiques. C'est évidemment considéré aussi comme une émergence, c'est une bactérie nouvelle. Hein, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 à 5 émergences par an. Donc, vous voyez, le nombre a considérablement augmenté. Donc, ces zoonoses sont provoquées par des agents pathogènes, qui peuvent être des virus, des bactéries ou des parasites, qui sont hébergés par des réservoirs animaux. Donc, des réservoirs, ce sont des animaux qui sont des porteurs sains, en fait. Ils ont le virus, mais ils ne tombent pas malades. D'accord ? Et parmi les réservoirs, les trois principaux, ce sont d'abord les rongeurs, ensuite les primates, et ensuite les chauves-souris. Alors, à ce stade de mon enquête, je me suis dit, bon voilà, saloperie d'animaux, il n'y a qu'à tous les exterminer et on sera tranquille. Voilà, on extermine les chauves-souris, les rongeurs. Enfin, il y en a d'ailleurs qui disent que c'est ça la solution. Eh bien, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, c'est tout le contraire qui se produit. Ce que vont vous expliquer les 62 scientifiques que j'ai interviewés donc, dans ce livre de confinement, qui sont originaires des 5 continents, qui sont virologues, infectiologues, parasitologues, médecins, vétérinaires, épidémiologistes, anthropologues. Ils ont tous en commun qu'ils sont excellents dans leur discipline, mais qu'ils se revendiquent d'une discipline chapeau, si j'ose dire, qu'on appelle la disease ecology en anglais, qui est l'écologie de la santé. D'accord ? Eh bien, ce qu'ils vont vous montrer maintenant, ce que je vais donc transmettre, c'est que quand on détruit la biodiversité, c'est là qu'on provoque l'émergence de maladies infectieuses. Et ce ne serait pas la solution d'exterminer, évidemment, les réservoirs. Alors, un petit retour en arrière, parce que c'est important de replacer ce qui nous arrive dans la plus grande histoire des agents infectieux, parce que c'est important. Alors, l'espèce humaine est la plus parasitée des espèces animales, avec plus de 1400 espèces de parasites et microbes infectieux répertoriés, dont plus de 60% sont d'origine zoonotique, donc viennent d'animaux, sauvages ou domestiques, vous allez voir. Et les humains ont acquis ces pathogènes, ces agents pathogènes, au cours de 3 événements majeurs qu'on considère comme 3 grandes transitions épidémiologiques de l'histoire de l'humanité. Et mon propos va être de vous montrer que nous sommes entrés dans la 4e et de vous décrire quelles sont ses caractéristiques. La première, pour faire très court, c'est quand nous, les proto-humains, nous sortons évidemment d'Afrique, donc il y a 150 000 ans, nous sortons avec un fardeau d'agents pathogènes que nous avons hérités d'un primate ancêtre commun. D'accord ? Et puis, comme nous commençons à coloniser l'Europe et l'Asie, eh bien, évidemment, arrivent de nouveaux pathogènes que nous rencontrons au cours de cette conquête de l'espace de la planète. Première transition épidémiologique. Deuxième transition épidémiologique, lors évidemment de la révolution du néolithique, où les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent et, entre autres, pratiquent l'agriculture, mais aussi l'élevage. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a dû être une hécatombe à la fois pour les animaux et les humains, cette sédentarisation, avec un échange très important d'agents pathogènes des deux côtés, mais qui en même temps a contribué au développement d'un système immunitaire contre certaines maladies, évidemment, qui sont... C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, il faut savoir que la plupart de... La domestication animale a commencé d'abord en Asie, et d'ailleurs l'Asie nous a donné plein d'animaux, donc l'Asie est le centre d'origine de plein d'animaux domestiques, comme le chat, le buffle, le bovin, le mouton, le cochon, la chèvre, le chameau, le cheval, le canard, le faisan, le poulet, et auxquels s'ajoutent tous les commensaux, c'est-à-dire les animaux qui vivent près des maisons, comme les rats et les souris. Tout ça, ça vient d'Asie. D'accord ? Peu d'espèces mammifères ont été domestiquées en Afrique, seulement l'âne, et en Europe de l'Ouest, seulement une. C'est laquelle, d'après vous ? Et non, ni le cheval ni le mouton, je viens de les citer avant, le lapin. Et dans les Amériques, le lama et le cochon d'Inde, c'est tout. Alors, cette révolution agricole, celle des interactions nouvelles et durables entre les humains et les animaux, qui leur permettent de développer, comme je viens de le dire, leur système immunitaire, mais aussi favorise l'émergence de maladies jusque-là inconnues. Par exemple, le virus de la variole provient d'un rongeur d'Asie qui a infecté un chameau, puis les humains, lors de la domestication des camélidés en Asie centrale. Donc, ce qu'on voit à travers cette histoire du néolithique, c'est que ce sont les bouleversements écologiques engendrés par l'activité anthropique et la proximité des humains avec les animaux sauvages et domestiques qui sont à l'origine de toutes les pandémies qu'a connues l'humanité, lesquelles émergent principalement en Asie, où ont été domestiquées la plupart des espèces animales. Troisième grande transition épidémiologique, ça se passe évidemment lors de... Eh bien, la première globalisation, celles qui font les routes de la soie, etc., qui vont faire que les fameux rats, qui sont donc, vous avez compris, originaires d'Asie, vont être dans les cales des bateaux et gagner l'Europe et emmener la peste. on a dans notre imaginaire les pestes, évidemment la peste du Moyen-Âge, les pestes du Moyen-Âge, etc. Évidemment, toutes les conquêtes européennes, notamment des Amériques, qui, c'est absolument impressionnant, hein, parce que vous savez qu'en Amérique latine, par exemple, et en Amérique du Nord aussi, bien évidemment, les populations amérindiennes ont été absolument décimées, et c'est entre autres, indépendamment de l'exploitation des humains, c'est-à-dire des hommes, c'est entre autres dû aux maladies infectieuses apportées par les conquistadors, comme la peste bubonique, la varicelle, le choléra, la diphtérie, les grippes, la lèpre, le paludisme, la rougeole, la variole, la fièvre typhoïde, la coqueluche et le typhus. Tout ça n'existait pas en Amérique avant l'arrivée des conquistadors. Donc vous imaginez l'hécatombe que ça peut provoquer chez des populations qui n'ont aucune défense contre ces maladies infectieuses. Alors au début du XXe siècle, alors que s'achève la première étape du processus de mondialisation de l'économie, la pandémie de grippe espagnole, qui porte mal son nom parce qu'en fait elle a commencé aux États-Unis, bref, eh bien, qui gagne l'Europe après les États-Unis, et c'est l'Espagne qui en parle pour la première fois, c'est pour ça qu'on parle de grippe espagnole, bref, et puis ensuite elle gagne l'Afrique et l'Asie, a tué environ 3% de la population mondiale, entre 40 et 50 millions de personnes. Donc, pour faire un bilan de cette troisième transition épidémiologique, c'est l'avènement des métropoles urbaines et du commerce international, qui, d'abord par les voies maritimes, qui ouvre la voie de l'empire des pestes. Au milieu du XXe siècle, le combat contre les pestes semble sur le point d'être gagné. Partout, la médecine moderne, avec ses antibiotiques et ses vaccins, et l'agro-industrie, vous savez que je connais bien, n'est-ce pas, avec tous les produits miracles des Monsanto et consorts, c'est-à-dire insecticides, enfin bref, tous ces poisons agricoles, grignote, pense-t-on, l'empire des pestes. La preuve, en 1979, l'OMS annonce publiquement, officiellement, que la variole a été éradiquée au terme d'une grande campagne de vaccination et dit ça la fin des maladies infectieuses. Et alors, elle oublie au passage le paludisme et la fièvre jaune, mais comme ça concerne surtout les pays du Sud, ben voilà. Et elle se dit maintenant, on va mettre le paquet sur les maladies qui concernent les pays occidentaux, qui sont toutes les maladies chroniques, donc cardiovasculaires, cancers, etc. Et d'ailleurs, ça va tellement loin qu'on démantèle tous les laboratoires de virologie parce qu'on se dit c'est fini. Sauf que, patatras, tout ça s'effondre. 1976, déjà 4 ans avant, était apparu un virus totalement inconnu en Afrique qui est le virus Ebola, un virus extrêmement, alors qui provient d'une chauve-souris qui transite par des singes et ensuite contamine les humains par ce qu'on appelle les fluides, donc par contact avec des personnes qui sont malades, donc les urines, tous les fluides, et qui tue 90% des gens. Je dis bien ça parce que moi j'arrive du Gabon pour le film et le Gabon a connu plusieurs foyers épidémiques et eux là-bas ils disent mais qu'est-ce que vous avez à perdre la tête comme ça pour un virus qui tue moins de 1% des gens, c'est quand même assez, il y a un truc qui ne va pas. Enfin bon bref, on en reparlera peut-être après. Donc voilà, ça c'est un petit résumé de tout le fardeau sanitaire qui a pu un moment dans l'histoire de l'humanité peser sur nous et qui continue de peser sur nous. Alors maintenant je vais raconter une nouvelle anecdote, peut-être une nouvelle histoire, alors vous allez peut-être être un peu plus... Vous allez me trouver la morale aussi. C'est l'histoire d'un virus qui s'appelle le Nipah, qui est apparu en 1997 en Malaisie. L'histoire est la suivante. On déforeste, pas moi, l'île de Bornéo pour implanter des monocultures de palmiers à huile. D'accord ? Les chauves-souris qui vivent dans cette forêt sont obligées de s'enfuir parce qu'on détruit leur habitat, n'est-ce pas ? Alors moi, je fais une petite parenthèse, je suis totalement tombée amoureuse des chauves-souris. Il suffit d'entendre des virologues en parler, c'est extraordinaire. Donc, les chauves-souris, ce sont les seuls mammifères volants, comme vous savez. Et on ne se rend pas compte, mais pour faire une telle prouesse, elles ont développé au cours de la longue évolution un système immunitaire absolument remarquable qui leur permet notamment d'avoir une température assez élevée. Hein. Bon, ouais, je ne rentre pas dans les détails, ça leur permet de voler en tout cas. Et du coup aussi d'être les réservoirs d'un nombre infini de virus sans tomber malade. Sauf que quand ces chauves-souris doivent s'enfuir parce qu'on détruit leur habitat, elles se mettent à stresser. Donc vous verrez, les scientifiques ont travaillé sur cette question. Et quand elles stressent, elles excrètent les virus dont elles sont porteuses par les urines, par les fesses, comme on dit, enfin... le caca, quoi, le caca de chauve-souris, etc. Elles peuvent contaminer au passage donc, des animaux sauvages qui sont par là. Voilà. Et dans mon histoire, comme elles crèvent de faim parce qu'elles n'ont plus rien à manger, elles sont, ce sont des chauves-souris frugivores, hein, parce qu'il y a des insectivores, il y a des carnivores, etc. Elles se rabattent sur les côtes de Malaisie, où on a développé une monoculture de manguiers destinés à l'exportation, au-dessus de fermes porcines industrielles. Donc double élevage intensif ou production intensive. Les chauves-souris mangent les mangues, évidemment, certaines d'entre elles tombent, elles contaminent les cochons, avec un nouveau virus qu'on va appeler Nipah, du nom de la localité. Et il faut savoir une chose, c'est que les virus qui viennent de chauves-souris, d'origine zoonotique, ne sautent jamais, comme on dit en anglais, jump, ne sautent jamais directement à l'homme. Il faut toujours un animal intermédiaire qui permet au virus de s'adapter et d'acquérir sa virulence et potentiellement de passer à l'homme. Alors, l'animal intermédiaire parfait, si vous voulez humaniser un agent pathogène d'origine zoonotique, c'est le cochon. Parce que nous partageons 95% de nos gènes avec les cochons. Donc les cochons tombent malades, le Nipah tue 60% des gens qui contaminent. Encore une fois, là, vous voyez, on est 60 fois plus élevé que pour le coronavirus. Hein. Les ouvriers agricoles des fermes porcines sont contaminés, tombent malades comme des mouches, on comprenait pas, on savait pas de quoi il s'agissait. Les cochons, parce que c'est ça l'ironie de l'histoire, ne sont pas consommés en Malaisie, parce que c'est un pays musulman, donc ils sont destinés à l'exportation, ils sont abattus à Singapour, et ensuite envoyés en Chine, et donc du coup, le virus voyage et contamine les ouvriers des abattoirs. Pour arrêter l'épidémie, on a abattu des millions de cochons, hein, parce que c'est ça la réponse qu'on donne, on en reparlera, la biosécurité. Voilà. Alors, là, vous avez trois facteurs récurrents qu'on retrouve dans toute l'émergence des maladies zoonotiques. Lesquels sont-ils, donc ? On va voir si vous avez suivi. Premier facteur ? Oui, la déforestation. Voilà. Deuxième facteur ? Non, l'élevage intensif, parce qu'en fait, l'élevage intensif joue le rôle d'amplificateur, c'est-à-dire que on l'a vu pour la grippe, hein, on a parlé de la grippe, vous savez, la grippe H1N1 en 2009, c'était une grippe aviaire porcine. Et pourquoi on craignait une grande pandémie? Justement parce qu'elle était passée par la case cochon. Hein. Donc les élevages intensifs qui jouent un rôle d'amplificateur de ces virus quand ils débarquent sortis de la forêt. Et puis la globalisation, d'accord, qui fait aujourd'hui qu'un virus, il prend l'avion et puis il se retrouve à l'autre bout du monde. Alors, ça, c'est les trois facteurs récurrents. Et vous allez voir, vous pouvez prendre n'importe quel exemple, on les retrouve dans tous les cas. Dans tous les cas de ces maladies émergentes, très nombreuses. Alors, maintenant, on va voir comment il y a un lien entre la destruction de la biodiversité et l'émergence de ces zoonoses. En 2008, la Britannique Kate Jones, qui dirige la chaire d'écologie et de biodiversité à l'University College de Londres, a publié une étude très remarquée et pionnière à l'époque dans Nature, où elle avait identifié 335 maladies qui étaient apparues entre 1964 et 2000. Vous vous rendez compte, 335, hein, dont 70% étaient d'origine zoonotique. Et elle avait constaté que les risques d'émergence de ces maladies, enfin, que ces maladies étaient essentiellement apparues et dans les zones intertropicales, en Asie du Sud, du Sud-Est, en Afrique centrale et de l'Ouest. Et elle avait noté aussi que ces deux régions étaient caractérisées par une forte démographie, une déforestation liée à l'intensification agricole et une intégration de plus en plus forte à l'économie mondiale. Et c'est la première fois qu'un scientifique dit que ces zoonoses sont dues aux changements environnementaux et aux comportements humains. Cette étude pionnière a donné lieu ensuite à une multitude d'études dans le monde. C'est-à-dire qu'un peu partout, on a essayé de vérifier si c'était vrai ce qu'elle venait de conclure à partir de l'examen de ces zoonoses. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que les agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a beaucoup là où il y a une grande diversité végétale et animale. C'est logique. La diversité des micro-organismes est liée à cette grande biodiversité, donc on les retrouve surtout dans les zones tropicales. Hein, ça, c'est la première chose. Et donc, c'est pareil, là, on se dit, si c'est ça, rasons les forêts tropicales et puis on va être débarrassé de tout ça, quoi, de tout ce risque. Et c'est là qu'il faut être... je pense que véritablement, si le livre a eu un tel succès, parce que c'est le cas, c'est parce que là, on voit des mécanismes qui ont été mis au jour par les scientifiques, totalement ignorés des politiques et du grand public, qui montrent que, véritablement, ce n'est pas... c'est la destruction de la biodiversité qui rend, qui augmente le risque infectieux, et que protéger la biodiversité, en revanche, c'est le meilleur antidote contre l'émergence de nouvelles maladies zoonotiques. Et dans un premier temps, on se dit que c'est complètement contre-intuitif. Vous comprenez ? Parce que dans les forêts tropicales, c'est là où il y a plus de risques, parce qu'il y a plus d'agents pathogènes potentiels. Mais c'est en les détruisant que, vous voyez, ça paraît complètement contre-intuitif. Et est intervenu un travail remarquable de Serge Morand, qui est associé à mon livre, qui est un scientifique du CNRS, qui vit en Thaïlande, et que j'ai eu le bonheur, jamais de rencontrer physiquement, parce que jusqu'à présent, je voudrais même aller, maintenant que je fais le film, le rencontrer en Thaïlande, mais pour l'instant, c'est impossible de voyager en Thaïlande. Et donc, ça fait un an et demi qu'on se parle par Skype, n'est-ce pas ? Et Serge Morand a publié une étude en 2010, très intéressante, dans la foulée de celle de Kate Jones. Il a fait une chose très simple, il a pris la carte des zones de déforestation en Asie, la carte des foyers infectieux en Asie et dans le Pacifique, tous les foyers épidémiques apparus entre 1950 jusqu'au début des années 2010, et puis la carte des espèces menacées d'extinction dans cette même région. Et en fait, les trois cartes se superposent. Donc, ça veut dire que, vous voyez, c'est ça qui est contre-intuitif. Hein, donc, quand vous avez un grand nombre d'espèces qui sont menacées d'extinction dans des zones tropicales, eh bien, c'est aussi là où il y a le plus de risques infectieux et d'agents infectieux qui peuvent être potentiellement porteurs de maladies pandémiques. Alors, comment expliquer ce résultat absolument contre-intuitif ? Alors, avant de vous transmettre les explications des chercheurs, je vais vous rappeler très rapidement, parce que j'imagine que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé à Marseille la semaine dernière, n'est-ce pas ? Je rappelle que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la sixième extinction des espèces. C'est pas rien, parce que je rappelle aussi que la dernière a eu lieu il y a 65 millions d'années, n'est-ce pas ? Avec la disparition des dinosaures, mais aussi 62% des espèces animales. Donc, c'est pas rien, c'est la sixième, et c'est nous qui sommes en train de la provoquer par les activités humaines. On estime aujourd'hui que 1 million d'espèces sont menacées sur les 8 millions qui ont été identifiés. Un quart des mammifères, un sixième des oiseaux, un tiers des amphibiens, un tiers des mammifères marins et des récifs coralliens, c'est absolument énorme. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que si la disparition des animaux sauvages et de la biodiversité constitue un risque pour nous, vous imaginez que si nous continuons sur cette voie-là, ce qui nous attend, hein, en termes y compris d'impact sanitaire. Et cette disparition de la biodiversité, cette destruction des forêts tropicales est due à des activités anthropiques que je vais rapidement énumérer parce que je voudrais surtout arriver au cœur de mon enquête. Bon, évidemment, l'agriculture industrielle, les monocultures de soja transgénique, comme j'ai décrit par exemple dans Le Monde sur le Monsanto, hein, qui vont ensuite nourrir les élevages intensifs bretons, hein. Les monocultures de palmiers à huile, qui vont ensuite terminer dans les réservoirs ou la raffinerie de Total dans les Bouches-du-Rhône, l'élevage en Amazonie, par exemple, hein. L'urbanisation, évidemment, également les barrages. Vous verrez dans mon livre, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, comment la construction de barrages provoque l'émergence de maladies infectieuses de très graves, comme la bilharziose, par exemple, au Sénégal. Le changement climatique est aussi une conséquence des activités anthropiques. Évidemment, le changement climatique, j'en parle dans le livre, augmente le risque infectieux parce qu'il y a des virus les moustiques se déplacent, remontent vers le nord, etc., etc. Voilà, alors ça, c'est les activités humaines qui, l'exploitation des mines, l'exploitation du bois, enfin, tout ça, fait que nous perturbons ou détruisons en partie la biodiversité, notamment dans les secteurs où il y en a beaucoup, dans les forêts tropicales. Alors, maintenant, vous allez comprendre comment, et il faut être un petit peu attentif, parce que c'est contre-intuitif, mais c'est quand même très très important de comprendre pourquoi, quand on rentre dans ces forêts tropicales, où il y a énormément d'agents pathogènes potentiellement dangereux, et qu'on détruit une partie de ces forêts, eh bien, nous rentrons en danger, et comment, à l'inverse, une grande biodiversité protège du risque infectieux par un mécanisme que les scientifiques ont mis au jour, qu'on appelle l'effet dilution. Alors, ça a été longtemps rallié comme une lubie d'écologiste, cette histoire d'effet dilution, et elle stipule qu'une riche biodiversité locale a un effet régulateur de la prévalence et de la virulence des agents pathogènes. Comment ? Alors, ce paradigme a été mis au jour par deux chercheurs américains que j'espère pouvoir rencontrer enfin physiquement à la fin du mois. C'est un peu compliqué d'aller aux États-Unis en ce moment, enfin bref, qui ont travaillé sur la maladie de Lyme. Vous savez que cette maladie de Lyme, dont on parle de plus en plus en Europe et beaucoup en Amérique aussi, est provoquée par des tiques, n'est-ce pas, qui vous mordent et qui sont potentiellement infectés par une bactérie et dont le réservoir, c'est toujours un rongeur. D'accord ? Alors, en Amérique du Nord, le réservoir de la bactérie qui peut transmettre la maladie de Lyme, c'est la souris à pattes blanches. Alors, j'ai dit c'est très précis parce qu'en fait, les rongeurs, c'est une très très grande famille. Il y a 1150 espèces de rongeurs, hein, les muridés, et qui comprennent les souris, les rats, les mulots, etc. Et c'est très précis, le diable est dans le détail. Donc ce sont les souris à pattes blanches, uniquement en Amérique du Nord, qui transmettent cette bactérie et qui peuvent infecter les tiques. Alors, les chercheurs américains, Richard Ostfeld et Felicia Kissing, de l'État de New York, qui sont dans deux institutions de recherche dans l'État de New York, d'abord ont constaté que dans la grande famille des rongeurs, il y a deux catégories. La première catégorie, ce sont ce qu'on appelle les rongeurs spécialistes. Donc c'est quoi des rongeurs spécialistes ? Ce sont des rongeurs qui se reproduisent lentement et peu et qui sont liés à un certain type de nourriture, donc à des niches écologiques. D'accord ? Quand ces niches sont détruites, ils disparaissent. D'accord ? Et les autres, ce sont ce qu'on appelle les généralistes. C'est tout le contraire. Eux, vous rasez une forêt, comme j'ai vu en Argentine, et vous mettez une monoculture de soja, ils mangent de soja. J'allais dire c'est con, là. Voilà, ils bouffent le soja, mais les spécialistes ne mangeront pas le soja parce qu'ils mangent des graines particulières, etc. Alors ça, c'est la première chose. Et ils ont constaté que, et avec des études très précises, hein, vous verrez, toutes les sources sont évidemment dans mon livre, vous pouvez aller vérifier les études, ils ont travaillé pendant deux décennies là-dessus. Ils ont constaté que quand vous fragmentez une forêt aux États-Unis, par exemple, parce que vous allez faire un Center Park, je ne sais pas ce que vous allez faire, enfin, voilà, eh bien, premier impact, c'est que les prédateurs disparaissent parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, les renards, par exemple, hein, ou certains rapaces. Donc, ces prédateurs qui pouvaient évidemment réguler la population des rongeurs, dont celle des souris à pattes blanches, d'accord ? Et deuxième impact, c'est que tous les rongeurs spécialistes disparaissent aussi parce que, eh bien, ils sont liés à des niches écologiques qui disparaissent. Et ils sont très sensibles à la transformation des habitats naturels. Donc prolifèrent les souris à pattes blanches. Vous m'avez suivi ? Donc, imaginez maintenant une tique qui est là, accrochée à une herbe dans une forêt américaine, qui attend que passe un mammifère, un oiseau, pour son repas sanguin dont elle a besoin pour son cycle de développement. Elle ne va pas sélectionner la souris à pattes blanches, bien évidemment. S'il y a un écureuil qui passe par là, très bien, c'est un hôte non compétent pour la bactérie, donc pas de danger de transmission. Si un opossum passe, voyez, etc., un oiseau, enfin, etc. Mais si vous avez réduit la biodiversité animale dans l'environnement en faisant partir les rongeurs non compétents pour cette bactérie, donc spécialistes, les prédateurs, etc., et que vous avez contribué à la prolifération des souris à pattes blanches, la probabilité qu'elles mordent une souris à pattes blanches augmente. Vous m'avez suivi ? Donc, la diversité réduit le risque infectieux. Vous m'avez suivi ? Et je vais vous donner un autre exemple pour bien que vous compreniez ce principe d'effet dilution. Quand j'étais en Guyane récemment pour le film, j'étais avec l'actrice Juliette Binoche, qui est associée à mon film, et qui était morte de peur parce qu'en Amazonie, donc on lui avait dit, et c'est vrai, qu'il y a 630 espèces de moustiques. Donc on a débarqué en Amazonie pour filmer, elle était habillée comme un cosmonaute, enfin, elle avait beau lui dire, moi je connaissais l'Amazonie, mais non, tu verras. Mais en fait, après, petit à petit, elle a commencé à enlever son... Et en fait, le chercheur Rodolphe Gozlan de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, lui a expliqué, ben non, sur les 630 moustiques, c'est 630 très exactement, espèces de moustiques, il y en a deux qui sont dangereuses pour les humains et adaptées pour piquer les humains. Tous les autres ne piquent pas les humains. C'est donc les anopheles qui peuvent donner le paludisme, ou le moustique tigre, dont on parle de plus en plus, y compris en Europe, qui peut donner la fièvre jaune, le Zika, le chikungunya, enfin toute une série de maladies infectieuses graves. Donc il lui dit, ben voilà, si tu as 630 espèces de moustiques là, autour de toi, eh bien, la probabilité que tu te fasses piquer par un qui peut te donner une maladie est très, très, très faible. Donc c'est la biodiversité et la diversité des espèces qui protègent contre le risque infectieux. C'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Donc, c'est intéressant parce que ça marche. Cet effet dilution a été prouvé. Alors, vous verrez le nombre d'études qui a été fait, mais c'est absolument impressionnant pour toutes les maladies vectorielles, donc qui passent par des moustiques ou des tiques, mais aussi pour d'autres maladies comme des maladies à antivirus qui ne sont pas des maladies vectorielles et la fièvre du Nil, etc. Donc, la biodiversité réduit le risque infectieux. D'accord ? Vous m'avez suivi ? Alors, c'est vrai aussi, d'ailleurs, pour les forêts. Vous verrez des études dont je parle dans le livre, une étude de l'université de Stanford, par exemple, qui porte sur 130 000 parcelles forestières, qui a montré que plus il y a une grande diversité d'arbres, plus le risque qu'un virus particulier ou un champignon, par exemple, pour parler des arbres, atteigne une certaine espèce d'arbre, est dilué et donc réduit. C'est pareil pour ce qui est de l'agriculture. Vous verrez dans mon livre un chercheur de l'INRAE qui me dit que c'est la monoculture qui augmente le risque infectieux. Si vous avez un champ de blé avec une seule variété de blé, par exemple, pour une maladie comme la rouille du blé qui est transmise par des champignons, évidemment, les spores du champignon, s'ils tombent sur un blé complètement uniforme qui est sensible à la maladie, toute la culture va être détruite. Si vous avez dans le même champ de blé 5 espèces, dont 4 qui sont résistantes aux champignons, vous diluez d'autant le risque que la maladie se propage. Voilà. Alors, ça c'est donc, vous avez compris comment, enfin j'espère, quand on détruit la biodiversité dans les zones tropicales, on augmente le risque qu'émerge un nouveau virus et potentiellement qu'on contribue à l'émergence d'une pandémie. Alors, la deuxième partie de cette démonstration, pour moi, elle était la plus étonnante, en fait, parce que quelque part, ça m'a, à part l'effet dilution que je ne connaissais pas, mais ça paraissait, enfin, voilà. Et ça concerne cette fois nous, dans nos pays occidentaux, où vous allez voir comment la destruction de la biodiversité chez nous, ou l'absence de biodiversité chez nous, nous rend plus vulnérables aux effets des virus qui viennent des zones tropicales. Et là, vous allez voir le lien avec la Covid-19, parce que c'est ça qui est absolument assez étonnant. Alors, je vais aussi commencer par une petite histoire qui est souvent méconnue, qui est celle du rhume des foins ou de l'asthme. Le rhume des foins est une allergie au pollen, qui fut décrit pour la première fois en Angleterre, il y a tout juste 200 ans, par un médecin, qui avait constaté que les personnes qui souffrent de rhume des foins ne sont généralement pas les fermiers, pas les paysans, mais, ni des ruraux, mais des urbains, des classes aristocratiques et bourgeoises qui vivent dans les villes. Les travaux récents ont confirmé l'importance de l'éducation de notre système immunitaire dès le plus jeune âge, afin d'éviter l'apparition des allergies et des maladies auto-immunes. L'exposition précoce à la biodiversité est significativement associée à un faible risque de développer une allergie, comme le rhume des foins, mais aussi des intolérances alimentaires, du diabète, de l'obésité, etc. Donc tout ça a été démontré de manière absolument magistrale par un chercheur finlandais qui s'appelle Tari Haatela, qui a fait, qui a montré que, je le cite, que le contact dans la petite enfance avec un environnement naturellement très riche enrichit le microbiome humain, donc c'est là que je vais en venir, promeut l'équilibre immunitaire et protège des allergies et des désordres inflammatoires. Alors, le microbiome, comme vous savez, comprend l'ensemble des virus, bactéries et champignons qui vivent à l'intérieur de notre corps, et sur notre peau, il est constitué de plusieurs microbiotes, le microbiote cutané, la peau, qui compte 1 million de bactéries par centimètre carré de peau. Et tant mieux, parce que plus il y en a, mieux c'est, surtout quand on est petit. Ou le microbiote intestinal, qui héberge quelques, alors là je suis vraiment obligé de lire mes notes parce que c'est tellement énorme, 100 000 milliards de micro-organismes pesant environ 1,5 kg. Alors ça c'est la flore intestinale, mine de rien, 1,5 kg pour une personne adulte. Ce mastodonte est donc peuplé de bactéries qui favorisent la digestion, aident l'intestin à se protéger de l'intrusion d'agents pathogènes ou participent à la construction du système immunitaire. S'il est en déséquilibre, le microbiote intestinal souffre de ce qu'on appelle une dysbiose associée à de nombreuses maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, mais aussi le diabète de type 1, l'asthme ou les allergies. Or, et vous allez voir la suite, ces pathologies chroniques sont les facteurs de comorbidité de la Covid-19. Si on souffre de ça, on risque de développer une forme sévère de la Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à le professeur Tarella? Alors, c'est assez étonnant parce qu'on est en Finlande. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a dû abandonner une partie d'une province qu'elle avait dans le nord, qui s'appelle la Carélie, à l'Union soviétique, en raison de ses accointances avec le régime hitlérien. Donc, ça a donné naissance à la 16e République soviétique, qu'on appelle la République de Carélie. Et de l'autre côté, la Finlande est restée avec une province tronquée qu'elle appelait la Carélie du Nord. Donc, vous imaginez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mur de Berlin entre les deux, donc deux systèmes économiques, tout, qui se développent de manière très différente. D'un côté, en Russie, on continue de vivre comme avant la Seconde Guerre mondiale, agriculture biologique par défaut, hein, pas de pesticides, hein, tout ça. On ne touche pas à la forêt, voilà, et grande biodiversité. De l'autre côté, c'est tout le contraire, on bétonne, malbouffe, très peu de biodiversité, etc. Et donc, ce professeur est contacté un jour parce que le gouvernement veut monter un programme de lutte contre les allergies, notamment l'asthme, qui a explosé, notamment en Carélie du Nord, et commence à travailler là-dessus, ainsi que les maladies cardiovasculaires, d'ailleurs. Et puis, arrive la chute du mur de Berlin, et ses collègues de l'autre côté, donc en Russie, cette fois, hein, disent « Nous, ça nous intéresse de travailler avec vous, parce que nous, on n'en a pas. On n'a pas d'allergie, on n'a pas d'asthme, et on n'a pas de maladies cardiovasculaires. » On pourrait comprendre, parce que c'est les mêmes habitants qui ont le même patrimoine génétique, qui parlent la même langue, simplement ont été séparés 50 ans par ce mur de Berlin. Donc c'est un terrain de recherche, comme le dit le Finlandais, inouï, complètement inouï, vous comprenez, unique. Et ils font pendant 20 ans des études énormes dans tous les sens. Et le résumé de ça, c'est que, je vous fais très court, hein, c'est qu'en fait, le fait que du côté russe, les enfants soient exposés depuis leur plus jeune enfance, alors vous allez voir, ça se joue entre 0 et 2 ans, c'est très précis, à une grande biodiversité végétale, animale, parce que les animaux dans les fermes traditionnelles, ils font ce qu'on devrait faire des animaux, et les vaches, elles mangent de l'herbe, et pendant les prés, les poules, elles se baladent, ces enfants-là ont un système immunitaire, un microbiote extrêmement riche, qui les met à l'abri, des désordres inflammatoires, des excès inflammatoires, qui sont une caractéristique, notamment des maladies allergiques, comme l'asthme, etc. Donc, ils ont fait des prélèvements sur la peau des adolescents, il y a plein de bactéries qu'il n'y a plus du tout du côté dans Carélie du Nord, etc., etc. Et donc, lui, il a travaillé là-dessus pendant des années, et ça a donné lieu aussi à des recherches complémentaires aux États-Unis, avec des scientifiques que j'ai interviewés, je vais vous en citer que deux, une étude faite sur plusieurs années par plusieurs scientifiques américains qui ont travaillé avec des familles qui ont grandi, et notamment les enfants qui ont grandi dans des fermes, alors des fermes laitières, bio. Ça veut dire quoi? Que les vaches mangent de l'herbe et se baladent, ne sont pas parquées dans des stabulations, qu'il y a du foin qui pousse dans les champs, on nourrit pas les vaches avec du maïs transgénique ou du soja, et du lait non pasteurisé, c'est-à-dire un petit peu de bactéries dans le lait, c'est vraiment bien mieux pour notre microbiote que du lait stérilisé, parce que ça, c'est pas bon du tout. Et les études montrent que tous les enfants qui sont nés dans ces fermes-là n'ont jamais d'asthme, ni d'intolérance alimentaire, ni d'allergie. C'est comparé, évidemment, avec des familles contraires. Hein, c'est très bien fait, c'est des études très bien faites, très bien randomisées, etc. Et pour la petite histoire, au moment où j'interviewais une scientifique extraordinaire américaine qui elle-même en parle toujours avec beaucoup d'étonnement, finalement, de découvrir ça, quoi. Elle a fait une autre série d'études chez les Amish. Vous savez ce que c'est que les Amish? Tout le monde sait très bien. Alors, c'est amusant parce que c'est à l'époque où M. Macron, notre président, comparait les écolos à des Amish, vous voyez. Ce qui n'était pas, évidemment, un compliment, hein, vous avez compris. Et elle fait une étude chez les Amish. Alors, évidemment, c'est des fermes laitières bio, enfin, etc. Voilà. Alors, elle prélève des poussières dans les maisons des familles Amish, et là, elle se rend compte que c'est bourré d'allergènes, c'est-à-dire que quelqu'un de la ville qui a grandi dans un environnement très stérilisé, il attraperait toutes les allergies du monde, mais zéro allergie chez les Amish. Et donc, même conclusion, c'est que si on veut protéger nos enfants de désordres inflammatoires importants, il faut qu'entre 0 et 2 ans, parce que toutes les études montrent que c'est là que ça se joue, le microbiote est définitivement constitué à l'âge de 2 ans. Il faut vraiment un énorme bouleversement alimentaire, style de vie, etc., pour le, ou une intervention enfin, chirurgicale, parce que maintenant on fait, vous savez, on peut implanter, enfin bref. Voilà, c'est là que ça joue. Et c'est très intéressant parce que, je vous ai dit, déjà, les facteurs de comorbidité, vous avez compris, bah, ce sont les gens qui souffrent de maladies chroniques, mais aussi une question, parce que on nous dit souvent qu'en Afrique, il va y avoir une hécatombe avec la Covid-19. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge. En Afrique, c'est zéro par rapport à nos pays. Hein. Mais il faut être très précis dans ce qu'on dit. Si vous allez sur le site de l'université américaine Johns Hopkins, qui est la meilleure université pour donner les chiffres sur la Covid, vous verrez le Gabon, d'où je reviens, 2 millions d'habitants, 140 morts. Hein. La Thaïlande, où est Serge Morand, qui suit ça de très près, 80 millions d'habitants, 1000 morts. Nous, on en a 120 000 pour autant d'habitants. Vous vous rendez compte de la différence, hein. Et en fait, quand on est très précis et qu'on travaille là-dessus, comme on fait les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont dit que ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, les morts qu'il y a en Afrique et en Asie, ce sont dans les villes, dans les capitales, qui ont des microbiotes ravagés, comme à Paris. Parce qu'en fait, vous verrez une étude que je cite dans mon livre, où ils ont comparé le microbiote d'habitants de Jakarta, de Libreville au Gabon, de New York et de Paris, même résultat, donc pas de biodiversité dans des environnements très bétonnés, malbouffe, tous ont le même microbiote, c'est-à-dire zéro, hein, donc très, très, très peu divers, enfin, etc. Quand ils ont comparé ces microbiotes avec des Africains ruraux ou des Asiatiques ruraux, les microbiotes sont beaucoup plus riches. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'hypothèse de la biodiversité pour expliquer qu'il y a aussi peu de morts dans les zones rurales africaines et asiatiques. Comment? Premièrement, donc les villageois, et vous verrez, je vous montrerai ça dans le film parce que j'ai vraiment travaillé sur cette question de manière très précise. Les villageois, et je l'ai vu dans les villages gabonais, les vaches, il n'y a pas de vaches, mais là-bas, il y a des chèvres et des moutons, bah, ils se baladent dans le village. Ces animaux peuvent aller aux lisières des forêts parce que le Gabon, c'est 90% du territoire, c'est de la forêt tropicale. Croiser des chauves-souris. Et voilà, alors le virologue avec qui j'étais, qui travaille dans un laboratoire de haute sécurité P4 après l'émergence d'Ebola à Libreville, m'a dit, il fait un suivi des chauves-souris, parce que Ebola vient aussi de chauves-souris, et il m'a dit, j'ai identifié deux coronavirus qui sont très proches, mais c'est pas le même, du SARS-CoV-2, de la même famille bêta, enfin bref. Et donc ça veut dire que des chèvres peuvent être contaminées par des chauves-souris qui ont un coronavirus proche du SARS-CoV-2, qui n'est pas le même, mais qui donne quand même une immunité partielle, n'est-ce pas? Partielle, mais quand même. Donc, deuxième chose. Troisième chose, les microbiotes très riches en raison de la biodiversité, évidemment, dans ces villages ruraux. Et la dernière chose qui est pour moi la plus sidérante, et moi je suis tombée du placard vraiment quand j'ai entendu ça, c'est très intéressant cette histoire, ils ont constaté que quand vous avez été confronté dans votre très petite enfance à des vers intestinaux, les oxures, alors je ne parle pas des ténias, des petits vers intestinaux que moi j'avais quand j'étais petite, je me rappelle, il ne faut surtout pas déparasiter, surtout pas. Parce qu'en fait, les parasitologues vous expliquent que ces vers, c'est extraordinaire, hein, dans la grande coévolution, les animaux ont toujours été parasités par des vers intestinaux, et nous les humains aussi. Eh bien, les vers intestinaux ont développé une stratégie pour éviter d'être expulsés des intestins des mammifères. Et pour faire ça, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes infecté par un vers intestinal, il y a une cellule qui se met en place, qui se déclenche, qui s'appelle la TH2, et qui est là, faire en sorte que l'intrus soit expulsé. Eh bien, dans leur longue évolution avec nous, les vers ont développé, fabriquent une protéine qui bloque l'action des TH2, et il se trouve que ces TH2 sont liés aux excès inflammatoires. Donc, quand vous êtes infecté tout petit par des vers intestinaux, vous éduquez votre corps pour justement ne pas être victime d'excès inflammatoires et parce que vous bloquez, les vers intestinaux bloquent cette TH2. Et voilà pourquoi, vous verrez des études publiées dans Nature et tout, on explique pourquoi il n'y a pas de mort de la Covid, et j'insiste beaucoup là-dessus, dans les zones africaines, rurales, africaines et asiatiques. Et donc, vous verrez aussi comment... en Thaïlande, par exemple, un scientifique avec lequel travaille Serge Morand, donc la consigne, c'est de ne pas déparasiter systématiquement, de maintenir un taux d'infection par les vers intestinaux très faible. Il ne faut quand même pas, évidemment, faut pas être infecté par n'importe quel vers intestinaux, hein, mais les oxures, parce que c'est le meilleur moyen de se protéger contre les inflammations. Et voilà, et ça serait l'une des explications principales du fait qu'il n'y a pas de mort de la Covid-19 en Afrique, rurale ou asiatique, parce que ils n'ont pas cette propension à développer des excès inflammatoires. Voilà. Alors, tout ça est intéressant parce que vous voyez où je veux en venir. La quatrième transition épidémiologique, c'est quoi ? Eh bien, c'est... elle caractériserait, donc c'est ce que disent les scientifiques de mon livre, l'Anthropocène. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'Anthropocène. Vous savez tous ce que c'est que l'Anthropocène. Et c'est d'ailleurs, c'est très bien résumé par Serge Morand qui dit que c'est quand même incroyable. D'un côté, quelle ironie, dit-il, j'ai cherché sa citation, nous sommes confrontés simultanément à deux nouvelles menaces de maladies pandémiques. Celle de maladies infectieuses transmissibles dues à de nouveaux agents pathogènes émergents et celle de maladies non transmissibles dues à la disparition des pathogènes chez nous. Et à la clé, au cœur à chaque fois, c'est la biodiversité. Donc c'est absolument, enfin pour moi je trouve ça absolument phénoménal. Et cette quatrième transition épidémiologique, ben c'est justement ça. Donc ça serait, par rapport aux trois premières que j'ai décrites, elle serait caractérisée par un double fardeau sanitaire. Le premier, dont on ne parle pas assez à mon sens, et ça fait des années que quelqu'un comme Louise aussi Vandelac, qui est ici dans cette salle, n'est-ce pas, le dit, attention, les perturbateurs endocriniens, la pollution chimique, la pollution de l'air, etc., ça contribue à l'émergence de maladies, évidemment, non transmissibles, mais chroniques. Et maintenant, on comprend aussi que la destruction de la biodiversité contribue aussi à ça, parce qu'elle nous fragilise, elle fragilise notre système immunitaire. Donc, en résumé, vous qui n'avez pas encore d'enfants, peut-être qu'il y en a qui en ont, mais quand vous aurez un bébé, vous le laissez crapahuter, vous lui laissez tripoter la terre avec les vers de terre, mettre tout ce qui traîne dans sa bouche, vous arrêtez de le laver tous les jours, pas de douche tous les jours, pas de bain tous les jours, laissez-le bien se salir dans tout ce qu'il faut, qu'il ait des plantes, des chats, des chiens, qu'on l'amène à la ferme, et c'est ça qui fera qu'il a un super système immunitaire, qui fera qu'il n'aura pas d'asthme d'allergie ou d'intolérance alimentaire. Et moi, j'ai des filles qui ont entre 25 et 30 ans, et je suis quand même très impressionnée de voir qu'on est arrivé dans nos pays européens la même chose qu'aux États-Unis que j'ai vu il y a 15 ou 20 ans, le nombre de jeunes qui ne peuvent pas supporter le gluten, le lactose, le jaune, le blanc d'œuf et tout, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand même ? C'est pas tombé du ciel quand même ça. Ça vient du fait qu'on a des microbiotes ratatinés et des systèmes immunitaires très, très faibles. En plus, il y a évidemment tous les facteurs environnementaux, pollution, qui se rajoutent à ça. D'accord ? Donc, c'est ça donc qui caractériserait donc cette quatrième transition épidémiologique. D'un côté, les maladies chroniques en pleine expansion. Je rappelle que simplement la pollution de l'air, par exemple, elle tue 9 millions de personnes par an. Hein. C'est toujours deux fois plus que la Covid aujourd'hui, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Voilà. Je ne parle même pas des cancers, parce que alors là, le nombre... voilà. Et puis, deuxième fardeau sanitaire, les maladies infectieuses, qui vont continuer à émerger si on ne s'attaque pas aux causes, qui sont les activités anthropiques qui détruisent la biodiversité dans les zones tropicales, bien sûr. Et ça, c'est absolument évident. D'ailleurs, les scientifiques que j'ai interviewés disent que si on ne s'attaque pas à ces causes, nous sommes très probablement entrés dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie de pandémie, avec d'autres qui vont arriver derrière bien plus dangereuses que cette Covid-19, parce que j'insiste, ils disent tous que la Covid-19, c'est rien. Hein ? Évidemment, c'est toujours trop de morts, parce que quand on a perdu des proches, c'est pas ça la question. La question, c'est de se remettre ça dans la grande image globale. Ebola, 90% des gens qui sont tués, etc. Et il peut y en avoir des bien plus dangereuses. D'ailleurs, l'une des préoccupations au Gabon, c'est pour ça qu'il y a un laboratoire P4, où je suis allée filmer là récemment, c'est que le virus donc, qui vient d'une chauve-souris, comme je vous ai dit, transmis par des primates, évolue. Pour l'instant, il ne se transmet que par contact des fluides de malades. Mais il n'est pas exclu qu'il mute pour devenir transmissible par voie aérienne. Donc vous imaginez que si Ebola est transmissible par voie aérienne et tue 90% des gens, alors là, on n'ose même pas imaginer ce que ça peut faire. Voilà. Donc on serait rentré dans une ère d'épidémie de pandémie et aussi une ère de confinement chronique, hein, si on ne s'attaque pas aux causes et qu'on reste dans une gestion à très court terme de cette crise sanitaire qui consiste à mettre tous le paquet sur les vaccins en donnant la clé de notre santé à des multinationales que je connais bien et à qui vraiment je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession, Pfizer et autres, mais vraiment, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je vous le dis, voilà. Et il faut donc à la fois essayer de trouver des solutions, évidemment, dans l'urgence, pour, voilà, mais aussi des solutions à long terme qui passent, donc, vous verrez les solutions après, par une remise en cause de ces activités anthropiques. Alors, pour eux, ils prônent ce qu'on appelle un changement de paradigme. qui est baptisé One Health, une seule santé, n'est-ce pas, et qui vise à promouvoir une vision holistique de la santé, c'est-à-dire globale, qui cesse de dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains. Parce que tout est connecté, d'accord ? On ne peut pas continuer à les séparer. Ce concept, qui est aujourd'hui promu par l'OMS, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale, s'inspire du... est assez ancien, en fait, hein, d'un concept qui s'appelait One Medicine, proposé par le vétérinaire américain Calvin Schwab, S-C-H-W-A-B-E, dans son livre « La médecine vétérinaire et la santé humaine » qui était paru en 1964. Donc, vous voyez, c'est un concept qui est déjà un peu ancien, qui lui-même, ce vétérinaire américain, s'appuyait sur les travaux d'un pathologiste et homme politique allemand, Rudolf Virchow, qui a forgé d'ailleurs le mot « zoonose », donc on est au 19e siècle, n'est-ce pas, et qui avait prôné à l'époque devant le Sénat prussien une collaboration entre les médecines vétérinaires et humaines afin de contrôler la tuberculose bovine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette séparation entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, en fait, elle est très récente, n'est-ce pas. Jusqu'au 18e siècle, les enseignements de la médecine vétérinaire, enfin, la médecine vétérinaire et humaine, avait lieu en même temps, dans les mêmes amphis, à l'université. La séparation commence avec la création de la première école vétérinaire qui a été officiellement ouverte à Lyon en 1761. Donc, vous voyez, c'est récent, quoi, hein, ça fait deux siècles, un peu plus de deux siècles, et qui avait été créée par Claude Bourgelat, qui dirigeait l'Académie royale d'équitation. Au cours du XXe siècle, chacune, la médecine vétérinaire et la médecine humaine, avec un grand mépris des médecins pour les vétérinaires, ça tout le monde m'a confirmé, n'est-ce pas ? Alors que c'est complètement absurde. Nous sommes des mammifères, on est d'accord ? Et des vertébrés, je vous ai dit, on partage 95% de nos gènes avec les cochons, 99% avec les chimpanzés. Donc les maladies des animaux, évidemment, elles peuvent être dangereuses pour nous et vice-versa. Donc c'est complètement stupide de séparer ces deux médecines. Et ça a des effets, par exemple, un exemple qui est souvent cité par les scientifiques qui prônent ce rapprochement entre la médecine vétérinaire et humaine, c'est le cas de l'usage des antibiotiques, qui a fait qu'à un moment, dans les élevages, les vétérinaires ne s'occupant que de la santé, entre guillemets, des animaux, en oubliant la parenté qu'il y a entre ces animaux et nous, vont administrer à forte dose des antibiotiques, y compris de manière préventive, et contribuer. Alors nous mangeons, en plus, pour ceux qui mangent la viande, évidemment, nous mangeons ces animaux. Enfin, bref, et on a aujourd'hui un problème d'antibiorésistance majeur qui est un énorme problème de santé publique. Et ça, c'est une absurdité qui est liée au fait que les deux médecines ne travaillent pas ensemble. C'est évident. Donc, et je rappelle quand même que, d'après l'OMS, l'antibiorésistance tue chaque année plus de 700 000 personnes aujourd'hui dans le monde. Et qu'en 2050, si on ne change pas ces pratiques agricoles, industrielles, enfin d'élevage, elle pourrait faire 10 millions de morts annuelles. C'est ça les pronostics. Alors, One Health propose aussi de sortir de ce qu'on appelle la logique des silos, de la compartimentation des disciplines. Il faut décloisonner les disciplines. C'est pour ça que je salue ce genre d'initiative où on essaie de faire travailler ensemble des spécialistes. Alors, on a toujours besoin de spécialistes et d'excellents juristes, d'excellents virologues, d'excellents parasitologues. La question, c'est de savoir comment on les fait travailler ensemble dans une conception de la science et de la recherche qui doit totalement changer. Si on veut faire face aux défis de l'anthropocène, que vous savez, le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, etc., et les deux causes étant intimement liées, parce que vous avez compris que les causes qui provoquent le dérèglement climatique, c'est les mêmes qui provoquent la destruction de la biodiversité, évidemment, et le risque qui provoque le risque infectieux. Eh bien, si on veut faire face à tous ces enjeux absolument énormes, on doit revoir aussi notre manière de faire de la recherche et de financer la recherche. C'est-à-dire que ce que disent les scientifiques de mon livre, c'est que nous devons développer une recherche des solutions, mais aussi bien dans le droit, dans la virologie, enfin, etc., parce que nous devons trouver des solutions à ces défis qui sont uniques et auxquels nous n'avons jamais été confrontés en tant qu'humanité, parce que le risque, c'est quand même que l'humanité disparaisse, hein, comme les mammifères, etc. Je dis bien l'humanité, hein, pas la planète, parce qu'il faut arrêter de dire que la planète va disparaître. La planète, elle va se débrouiller très très bien sans nous. D'ailleurs, un parasitologue de mon livre m'a même dit, il m'a rappelé ce que c'était qu'un parasite. Un parasite, c'est un organisme qui vit au détriment de son hôte. Mais dans le monde animal, ils sont pas assez fous, les parasites, pour détruire l'hôte, parce que s'ils détruisent l'hôte, ils disparaissent avec. Et ben nous, c'est ce qu'on fait. Donc on est des super, super, super parasites, tellement super que ça n'existe pas dans le monde animal, vous voyez. Donc voilà. Donc on a besoin de scientifiques ou de chercheurs dans toutes les disciplines qui collaborent pour développer des solutions à ces risques majeurs que nous encourons. Donc ça veut dire sortir de la logique des silos, donc encouragés par les organismes de recherche. Les scientifiques de mon livre se plaignent du fait, par exemple, que pour obtenir des financements pour une recherche transdisciplinaire, c'est très difficile, parce qu'il faut rentrer dans une case. Et si on ne rentre pas dans la case, on n'a pas des financements. D'accord ? Et malheureusement, ce qu'il faut, c'est justement de la transdisciplinarité. Et on a aussi besoin aussi de créer peut-être de nouvelles disciplines, d'ailleurs, hein, qui vont... Parce que, évidemment, un virologue, pour parler avec un anthropologue, ils ont du mal, ils ne parlent pas le même langage. Vous verrez dans mon livre un exemple très intéressant où un parasitologue rencontre un climatologue et au début, ils n'arrivent pas à se parler. Et comment, petit à petit, ils vont nourrir, ils vont garder leur excellence disciplinaire, bien sûr. Et donc, on a besoin aussi de personnes qui font les ponts. Donc, ça peut être de nouveaux métiers, d'ailleurs, hein, qui ont une bonne connaissance scientifique et qui font des ponts entre ces différentes disciplines pour que les chercheurs dans les différentes disciplines puissent travailler ensemble, n'est-ce pas ? Et conduire des projets d'intérêt général. Pas pour faire le malin dans une revue avec une super publication financée par une multinationale, vous voyez, l'intérêt général. Voilà. Alors, ça c'est One Health. Au-delà de One Health, s'est développé ensuite récemment un autre concept qui est Planetary Health, la santé planétaire, développé à la demande de The Lancet, le magazine, vous savez, de recherche britannique, qui a demandé à des scientifiques de réfléchir d'abord sur l'impact du réchauffement climatique en termes d'économie, c'était la première chose, et ensuite de travailler plus généralement sur un nouveau concept que moi je trouve plus large que One Health, parce que One Health au début ce sont surtout des médecins et des vétérinaires qui essaient de se rapprocher, et là One Health, Planetary Health, c'est beaucoup plus large parce que ça aborde toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés. Et l'idée, c'est de développer un concept global de la santé qui tienne compte non seulement de tout ce que je viens de vous décrire, mais aussi du dérèglement climatique, parce que c'est l'une des choses qui va notamment, par exemple, avoir un impact sur la santé, évidemment, mais de la pauvreté aussi, la question de la pauvreté, de l'aménagement urbain, enfin, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer, vous verrez, Sir Andrew Hines, un chercheur réputé en épidémiologie et santé environnementale qui a dirigé la London School of Hygiene de l'école de médecine et d'hygiène, médecine tropicale et d'hygiène, très réputée à Londres. En 2009, il avait, à la demande de The Lancet, coordonné une commission scientifique sur le changement climatique dont le but était d'évaluer les bénéfices sanitaires que nous pourrions collectivement tirer d'une économie décarbonée qui ne serait plus dépendante des énergies fossiles. Et ils sont partis d'un constat. Alors c'est important parce qu'il dit la même chose aujourd'hui, évidemment, pour les maladies infectieuses, parce que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc ils sont partis d'un constat dans le système économique dominant, ce qu'on appelle les externalités en économie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les coûts environnementaux et sanitaires des activités industrielles ou agricoles ne sont jamais pris en compte. D'accord ? Au mieux, on demande à la société de payer pour ces dégâts-là, mais ce n'est pas les multinationales qui provoquent ces dégâts qui payent les coûts. Hein. C'est la même chose, par exemple, pour les algues vertes sur les plages de Bretagne. On sait très bien d'où ça vient. Ça vient des élevages intensifs de porcs et à cause des nitrates, etc. Mais on ne va pas demander aux gros éleveurs de porcs de payer pour la dépollution des plages bretonnes. Voilà, c'est ça, les externalités. Donc, c'est pareil pour la pollution de l'air, etc. Donc, lui, il s'est dit, à partir de là, donc dans cette première commission sur le dérèglement climatique, ils ont donc fait une deuxième commission sur la santé globale, et ils se sont dit, on ne pourra pas régler la question de l'émergence de maladies infectieuses si on ne prend pas en compte ce modèle agricole dominant, ce modèle économique dominant, dont le modèle agricole, évidemment, est une pièce importante. Et c'est pourquoi on doit développer un concept vraiment super global, là, totalement holistique, où la dimension économie doit aussi rentrer. C'est pas qu'uniquement, et y compris pour les pandémies, c'est pas uniquement une question d'agents pathogènes, etc. C'est aussi une question de modèle de développement. Et voilà comment je vais en venir aux solutions qu'il préconise. ceux qui portent le concept de planétarisme aussi, donc les chercheurs de mon livre, qui d'ailleurs sont très proches de ce concept. Et par exemple, j'ai interviewé Samuel Myers, qui est chercheur au Centre de l'environnement de l'Université Harvard aux États-Unis et directeur de l'Alliance pour la santé planétaire. Il m'a raconté une étude qui a été publiée dans Science par un chercheur de l'Université de Berkeley, qui a montré, pour vous dire, comment la dimension économique est absolument importante, qu'il faut la prendre en compte, avec tous ces aspects juridiques, d'ailleurs, au passage, qui vont avec. Il m'a raconté comment, au Ghana, donc en Afrique, la surexploitation des poissons par les grandes compagnies de pêche européennes a provoqué un effondrement de la pêche artisanale. Bon, jusque-là, on se dit, OK, classique, n'est-ce pas ? Qui, du coup, a entraîné une chute de l'offre en poissons sur les marchés locaux, qui du coup a fait que les gens sont retournés en forêt pour manger de la viande de brousse parce qu'il n'y avait plus les protéines qui provenaient des poissons qui étaient proposés sur les marchés locaux parce que, vous avez compris, les grandes compagnies européennes raflaient tout et avaient détruit la pêche locale. Et vous voyez comment des grandes compagnies européennes qui font n'importe quoi, qui surexploitent les ressources halieutiques, vont provoquer un effondrement et la disparition d'espèces dans les forêts tropicales du Ghana. Vous voyez bien que c'est le modèle économique qui est à l'origine de ça, et qu'on ne peut, si on n'inclut pas l'économie dans cette réflexion sur la gestion à long terme des maladies infectieuses et de l'émergence de maladies infectieuses, on ne peut pas s'en sortir. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Je serai à peu près dans les temps, parce qu'après il y aura des questions, n'est-ce pas ? Alors les mesures concrètes, ça c'est pas moi qui le dis, moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ces entretiens que j'ai fait avec les scientifiques. Parce que moi, je connais bien les scientifiques depuis de longues années. Et bon, dans le monde sur le Monsanto, j'avais surtout interviewé des lanceurs d'alerte, donc qui avaient déjà pris beaucoup de risques, et donc parlé, parce qu'au risque, ils avaient déjà perdu leur boulot, enfin voilà. Mais en général, les scientifiques sont très prudents dès qu'il s'agit de sortir de leur silo, et surtout ne veulent pas parler, parce que parfois, ils ont peur de perdre leur boulot. Enfin, voilà. Et là, je suis scientifique, les 62. Non seulement ils m'ont parlé de leurs études, dans leur discipline, etc., mais ils étaient très inquiets, parce que, donc, je vous replace le contexte, début, premier confinement, hein, donc interview par Skype et Zoom sur les 5 continents, ils étaient tous confinés, qui dans son grenier, qui dans son garage, enfin, c'était assez étonnant. Ils étaient très déprimés, ils le disent, très angoissés, parce qu'ils disaient, ça fait très longtemps qu'on dit que ça va arriver, et ça y est. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on a peur pour nos enfants. Voilà, tout simplement, parce que ça va continuer et vont arriver derrière des pandémies bien plus meurtrières que la Covid-19. Et voilà. Alors, et donc, du coup, eh ben, quand je leur demandais, c'est quoi le monde ? Vous savez, c'était l'histoire du monde d'avant et du monde d'après. Hein. C'est quoi le monde d'après pour vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben voilà ce qu'ils m'ont dit. Un, repenser le développement et les grands projets d'infrastructure. Alors, par exemple, les barrages, j'en parlais, parce qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment un peu partout sur la planète autour de la construction de barrages. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, voilà, énergie renouvelable, etc. C'est pas si simple, pas si simple. Avant de se lancer, me disent-ils, dans la construction d'un barrage ou l'ouverture d'une mine, alors pareil, hein, d'une mine, encore plus d'une mine, il faut effectuer ce qu'ils appellent une évaluation d'impact sanitaire, ce qui n'est jamais fait, pour estimer quelles menaces biologiques pourraient déclencher l'ouvrage. Là aussi, je les cite, nous ne pouvons plus continuer à travailler en silo. Les ingénieurs construisent, puis les médecins réparent les dégâts quand ils en ont les moyens, n'est-ce pas ? Comme au Sénégal, où la construction du barrage Diama, un énorme barrage au Sénégal, a provoqué l'explosion de la bilharziose, dont je parlais tout à l'heure, qui est une maladie transmise par un petit ver dont le réservoir est un escargot. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, en faisant le barrage, ce petit ver là qui transmet la bilharziose, qui est une maladie très dangereuse, hein, qui infecte 400 millions de personnes sur la planète, quand même, c'est pas rien. Eh bien, ce petit ver est hébergé par un escargot, mais avant le barrage, il y a les prédateurs de l'escargot qui vont contrôler la population d'escargots, notamment des serpents qui bouffent ces escargots. Avec le barrage, tous ces prédateurs ont disparu, donc l'escargot y prolifère, et donc le ver, et donc le risque de bilharziose. Donc voilà. Donc, première chose, il faut absolument, avant de se lancer dans de grandes constructions, infrastructures, réfléchir à ça et faire appel à des écologues de la santé. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer si on modifie, là, par exemple, le régime de l'eau sur un fleuve ? Repenser l'aménagement urbain et rural complètement. Alors, vous verrez, en Australie, ils ont développé des initiatives, justement, en liaison avec le microbiote, pour renforcer les microbiotes des citadins. Donc, plein de, enfin, on plante des arbres fruitiers partout dans la ville, des parcs, etc. On fait sortir les enfants, enfin, on arrête de les. Enfin, donc voilà, repenser l'aménagement urbain pour qu'il y ait le plus possible de biodiversité, de diversité. Et évidemment, l'aménagement rural. Alors, rural, ça veut dire, ça passe évidemment par la restructuration complète de l'agriculture et évidemment la disparition de l'agriculture industrielle, monoculture, élevage intensif, en allant sur ce que j'ai décrit déjà dans un autre film et livre qui s'appelle Les moissons du futur, hein, donc agroécologie, production locale, vous connaissez ça par cœur, et consommation locale d'aliments de saison, etc. Et repenser, alors le concept, vous verrez, c'est repenser les espaces en termes de territoire, c'est-à-dire dans ces territoires, il doit y avoir une diversité, alors évidemment, végétale, des arbres, des haies, des animaux, et on arrête évidemment aussi, on sort de la logique des filières agricoles qui fait qu'on fait les cochons en Bretagne, et puis le blé dans la Beauce, enfin tout ça, il faut tout revoir, tout ça, et c'est ça la solution évidemment. Et ça veut dire aussi arrêter de bétonner. Alors, je donne deux exemples auxquels moi je suis très lié parce qu'on a parlé tout à l'heure de ma Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes. C'était en 2013, en plein conflit. Évidemment, on a gagné, et tant mieux. Et c'était un symbole très important. Il faut arrêter de bétonner, d'encourager les avions pas chers. Donc, ça veut dire évidemment qu'à terme, on ne doit plus avoir EasyJet et compagnie, toutes ces compagnies qui nous font croire qu'on peut aller pour 50 euros à Porto. C'est pas vrai, ça se fait au détriment de l'environnement, ça se fait parce qu'on ne paye pas les gens, enfin, etc. Et je pense aussi au triangle de Gonesse, qui est un autre combat en ce moment très important dans la région parisienne, hein, où on veut détruire les derrières. Moi, je suis marraine du collectif contre ce triangle de Gonesse, où on veut. Enfin, il était question, alors c'était abandonné pour l'instant Europa City, le projet, mais enfin, de détruire les terres agricoles pour faire je ne sais quelle grande infrastructure de loisirs, voilà. Ou un autre exemple où je suis marraine d'un tas de trucs, pour vous dire la vérité, porte de, là en ce moment, à Aubervilliers, il y a des jardins ouvriers qui datent depuis un siècle, ils sont en train de les raser, ça a commencé la semaine dernière, pour pouvoir faire un solarium géant à côté de la piscine olympique pour les Jeux Olympiques. C'est scandaleux, mais complètement scandaleux. Et après, on va faire des grandes déclarations sur la biodiversité, puis on va aller parader à Marseille. Moi, je n'y suis pas allée pour ça, en fait, que je ne supporte plus ces grandes messes où on fait du... Alors, après, chacun a sa place, mais moi, voilà. Mais pour vous, c'est bien, c'est important d'y aller, mais il faut se rendre compte de ça. Et moi, à un moment, voilà, et je vois tout ça. Alors, autre chose... Première chose, donc, repenser le développement et les grands projets d'infrastructure. Deux, réduire la pauvreté et les inégalités. Très important. Tous les scientifiques de mon livre vous disent on ne peut pas protéger la biodiversité si on ne vient pas à bout, on n'affronte pas la question de la pauvreté et des inégalités. Partout, vous verrez, depuis les années 1970, vous savez, l'UNESCO a beaucoup encouragé la création de réserves de biosphère. D'abord, c'était des parcs nationaux. Et l'idée au départ, hein, et après elle a évolué, tant mieux d'ailleurs, hein, c'était on va mettre 10% de chaque pays sous cloche. Hein, on fait un grand, des parcs nationaux, et là, chut, tout ce qu'il y a dedans, on n'y touche pas, et à côté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous arrachez les haies, vous abattez les arbres, mais là au moins, voilà. Et ça, ça ne marche pas, parce qu'en fait, dans des grands parcs nationaux africains, parfois, ou asiatiques, eh bien, les paysans, ils rentrent, parce qu'il faut qu'ils aient ils n'ont pas de terre pour vivre, enfin voilà. Donc, alors, l'UNESCO a beaucoup évolué, maintenant, c'est des réserves de biosphère, où il y a des humains qui habitent, on n'est plus dans des zones hyper... voilà. Mais il faut lutter contre la pauvreté. Et je voulais vous parler d'une étude extraordinaire qui est dans mon livre, qui a été faite par un génie des mathématiques qui s'appelle le docteur Safa Motesharai de l'Université du Maryland, docteur en mathématiques, en physique, en sciences politiques, la totale. Et avec ça, il est en plus très malin pour faire des logiciels de modélisation. Donc, il a fait une étude de modélisation pour mettre au jour la dynamique qui a conduit à la disparition totale et irréversible de civilisations antérieures à la nôtre, comme les Mayas, les Romains, d'ailleurs aussi, les Assyriens, l'île de Pâques, etc. Ou l'Empire Khmer, etc. Pour construire cet outil analytique qu'il a appelé HANDY, H-A-N-D-Y, il s'est inspiré du modèle prédateur-proie d'économistes canadiens qui s'appellent James Brander et Scott Taylor, dans lequel le prédateur, c'est l'humanité, évidemment, et la proie, ce sont les ressources naturelles. Okay. Et il a ajouté un paramètre c'est l'accumulation des richesses, hein, comme l'accumulation des richesses comme paramètre qu'on peut faire varier évidemment dans différents modèles. Il a divisé la population humaine, qui est donc le prédateur, en deux classes. D'un côté, les élites, et de l'autre, ce qu'il appelle les commoners, on dirait les roturiers. D'accord ? Et alors, les élites, ce sont celles qui... c'est les riches, hein, bien sûr. Et puis les autres, ce sont ceux qui produisent la richesse, mais dont ils ne jouissent pas, parce qu'eux, au plus, ils survivent avec ce qu'ils produisent. D'accord ? Il a fait mouliner tout ça, vous verrez, dans des super ordinateurs, un petit peu ce qu'avait fait le rapport du Club de Rome en 1972, mais avec des moyens encore plus importants d'un point de vue, évidemment, informatique. Et il voulait voir quels étaient les facteurs qui ont conduit à la disparition de ces civilisations, hormis deux facteurs qui sont connus, le climat et l'agriculture, parce que c'est connu. Il a trouvé les deux facteurs fondamentaux, et je vous les livre. Les deux raisons principales de l'effondrement de ces civilisations antérieures aux nôtres, qui, je le rappelle, étaient les plus avancées de leur temps. Il ne faut pas croire que c'était les dernières, c'était les plus avancées de leur temps. Eh bien, ce sont la surexploitation des ressources naturelles, alors évidemment qu'on est en plein dedans, couplée à une distribution inégalitaire de la richesse produite. L'inégalité sociale, et nous sommes évidemment en plein dedans, quand vous savez qu'aujourd'hui 1% des plus riches de la planète possède autant que 3,5 milliards d'habitants, ou qu'il y a 28 milliardaires. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, on est vraiment, vraiment en plein dedans. Et ça, c'est, il a dit pour lui, c'était les deux facteurs. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est ce que permet de montrer cette modélisation, c'est que dans un premier temps, les ressources s'effondrent. Les commoners sont les premiers à disparaître, parce qu'il n'y a plus de ressources, ils ne peuvent plus travailler, etc. Les élites survivent quelques temps, mais elles disparaissent aussi. Parce que dans la folie de ces élites-là, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, enfin, c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui, hein, qui sont liées à des systèmes boursiers, qui travaillent, enfin, qui font de la spéculation à très court terme, c'est toujours d'espérer que, vous savez, c'est comme dans l'histoire du Titanic, il y a des petits bateaux, quoi. Ils espèrent qu'ils vont prendre les petits bateaux et qu'ils vont s'en tirer. Ben non. En fait, l'histoire fait qu'ils disparaissent un peu plus tard, mais ils disparaissent quand même. Voilà. Donc ça, c'est la question des inégalités et de la... Et de la pauvreté est absolument importante. Un autre exemple, c'est par rapport à la viande de brousse, c'est une question qui est souvent posée. Vous savez que pour ce qui est du sida, par exemple, ou Ebola, pour le sida, c'est un virus qui provient de singes, hein, qui a ensuite contaminé les humains. Donc vous verrez dans mon livre un encadré fait par Serge Morand, très intéressant, qui montre comment en fait le virus du sida est apparu au 19e siècle, contrairement à ce qu'on parle de maladie émergente en 1980, parce qu'on est en... C'est le début de la pandémie. Mais en fait, ce virus est apparu beaucoup plus tôt. Il était chez les singes depuis très longtemps. Et c'est très probablement la colonisation européenne qui a fait abattre les arbres en Afrique, etc., qui nous a fait rentrer en contact avec ces singes et ce virus. Au départ, ce virus a tué quelques personnes, mais on ne savait pas de quoi. Mais il n'était pas encore adapté suffisamment pour pouvoir se transmettre de manière pandémique. Et il a fallu un siècle pour qu'il mute, et jusqu'à ce que, voilà, il mute au point de devenir une pandémie. La question, ce n'est pas... moi, j'arrive du Gabon, donc c'est un pays où il n'y a pas d'agriculture et pas d'élevage, hein, y a trop de forêts, enfin, etc. Donc, ils mangent énormément de viande de brousse, et c'est leur seule source de protéines. La solution, c'est pas d'interdire la viande de brousse, c'est plutôt de voir comment... Ils vont arrêter de... Enfin, parce qu'ils consomment y compris des espèces qui sont menacées d'extinction par manque d'informations, etc. De trouver progressivement des alternatives aussi, parce que... Voilà. Mais c'est trop simple de dire depuis chez nous, d'autant plus qu'en ce moment, il y a tous ce débat sur manger moins de viande, ce qu'il faut évidemment faire, hein, de dire aux Africains qui n'ont rien à bouffer, ne mangez plus d'antilopes ou... Voilà. Le problème, c'est aussi, comment il faut tenir compte du fait que les populations ont le droit de vivre et de se nourrir déjà. Hein, voilà. Donc la question de la pauvreté aussi est absolument capitale. Troisième grande recommandation des scientifiques, repenser l'économie et la globalisation, évidemment. Un changement de paradigme économique qui remette en cause le sacro-saint principe de la croissance du PIB, le produit intérieur brut. Alors pour ça, pour plus d'informations, je vous renvoie sur mon livre La Sacrée Croissance. Vous aurez tous les arguments pour comprendre. Pourquoi ? La solution, ce n'est pas la croissance, mais c'est le problème, qu'on ne peut pas continuer à promouvoir un système économique fondé sur toujours plus de production, toujours plus de consommation sur une planète où les ressources sont limitées, que ce n'est absolument pas possible. D'ailleurs, mon super mathématicien, là, je vais vous le citer parce qu'il est mathématicien, il dit « Nul besoin d'être fort en maths, comme lui, hein, pour comprendre qu'une croissance quantitative illimitée, toujours plus de production, toujours plus de consommation, sur une planète limitée en termes de ressources et de capacité d'absorption des déchets, est mathématiquement impossible. » Voilà. Et il faut donc revoir complètement ce modèle économique fondé sur la croissance. Et dans mon livre Sacrée croissance, j'avais fait la même chose, mais en faisant la tournée des économistes et des modèles alternatifs, c'était de remplacer la recherche du toujours plus par le toujours plus de soins, le soin, the care, prendre soin des aliments, des forêts, des humains, etc. Ensuite, revoir évidemment les politiques de tourisme de masse, j'en ai un petit peu parlé, donc ça veut dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion dans tous les sens pour passer quelques jours sur une plage, voyager autrement, évidemment, et ne pas encourager ces déplacements qui font des dégâts monumentaux. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu dans plein de pays où il y a beaucoup de tourisme de masse, n'est-ce pas ? Quatrième point, s'inspirer des savoirs et des connaissances des peuples indigènes. Alors moi, dans mon livre, je prends l'exemple des Kogi, qui sont donc une communauté indigène qui vit au nord de la Colombie, vous savez, qui se considèrent comme les frères aînés de l'humanité et les garants de la terre, et leur rapport à l'environnement, leur manière de considérer que nous faisons partie d'un grand univers où nous sommes tous interconnectés dans cette grande chaîne du vivant, doit être source d'inspiration pour revoir notre rapport à la nature, à l'environnement, et notre place, à nous les humains, sur cette Terre, en liaison avec les autres habitants de cette planète, organismes vivants qui habitent cette planète. Sixième point, changer les modes de vie. Alors ça nous concerne tous, évidemment. Serge Morand parle... on parle de l'Anthropocène, mais lui, il dit que l'Anthropocène, c'est surtout ce qu'il appelle le bovinocène, donc c'est l'ère des bovins. Et c'est assez impressionnant, hein, parce qu'en fait, entre 1960 et 2017, le nombre de bovins vivant sur la planète est passé de moins de 500 millions à près de 1,6 milliard, n'est-ce pas ? Et celui des cochons de 500 millions à 1,5 milliard, et celui des poulets de 5 milliards à plus de 20 milliards. En fait, la masse... Le nombre d'animaux d'élevage est devenu tel que leur poids cumulé est 40 fois plus important que celui des humains et des animaux sauvages. C'est absolument gigantesque. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas continuer à encourager ça, qu'il faut évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, manger beaucoup moins de viande, ça c'est clair. Et si on continue à le faire, manger de la viande de qualité avec des producteurs locaux dont on sait d'où elle vient. Et enfin, moi, c'est ce que je fais personnellement. Je ne suis pas devenue totalement végétarienne, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je suis née sur une ferme et je connais des agriculteurs qui font de... Donc voilà, mais arrêter d'acheter de la viande qui vient n'importe où, voilà, c'est un premier pas. Et puis en manger, évidemment, beaucoup moins, dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas encore végétariens. Il y a des végétariens dans la salle, levez la main. Ah, ben voilà, il y en a déjà confirmé. Donc, Samuel Myers de l'université Harvard, il dit tout simplement, nous devons tout faire différemment, produire, manger, nous chauffer, nous déplacer, donc voilà. Donc c'est ce que chacun peut faire, mais moi, je savais, j'ai fait des films qui montrent qu'on peut faire autrement, toutes ces initiatives qui montrent, et qu'il y a plein de collectifs, de citoyens qui changent de vie, qui font ce qu'il faut, etc., etc., c'est super, c'est bon pour le moral, c'est important, mais il ne faut pas mettre une croix sur, évidemment, le levier politique, parce qu'il faut... La question, c'est aujourd'hui comment on change d'échelle pour arriver à encourager rapidement, parce que nous sommes dans l'urgence, vous comprenez, des changements systémiques où seuls les politiques... on a besoin des politiques, donc il ne faut pas faire une croix là-dessus. Moi, je me bats beaucoup pour ça. Il faut une transformation individuelle de nos modes de vie, etc. Évidemment, et c'est le plus cohérent possible par rapport à tout ça. Mais en même temps, on a besoin de décisions qui sont prises au niveau gouvernemental et international qui encouragent ce changement de paradigme dont nous avons besoin de toute urgence. Et je finirai avec une citation de Anne Larry-Gaudry, qui est la secrétaire exécutive de l'IPBS, qui est donc la plateforme intergouvernementale d'expertise sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Il faut une vraie volonté politique d'investir dans les biens communs. Et ça passe évidemment... Alors, l'avenir de l'agriculture, ce ne sont pas les pesticides ni les monocultures, mais l'agroécologie qui est aussi bonne pour le climat, la biodiversité et la santé. Et ce que disent tous les scientifiques, c'est que si nous arrivons à convaincre les hommes et femmes politiques de prendre les bonnes mesures dont j'ai J'en ai cité quelques-unes. Une mesure, ça consiste aussi, par exemple, à ne pas signer l'accord de libre-échange avec le Mercosur en Amérique latine, parce qu'il prévoit notamment l'importation de bovins du Brésil. Et si on fait ça, on contribue à la déforestation de l'Amazonie, et donc au dérèglement climatique, et donc au risque infectieux. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on prend les bonnes mesures, c'est ce qu'on appelle en anglais du win-win-win, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. C'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour le climat et c'est bon pour notre santé, et puis c'est bon pour le moral aussi, parce que quand même, vous êtes la jeune génération, vous avez l'âge de mes filles, je trouve que c'est rude d'être dans un monde comme celui-là. Il faut quand même garder l'espoir qu'on va arriver à le changer. Et pour ça, encore une fois, il faut s'engager dans ce qu'on fait, dans son métier, dans son travail, mais le plus possible localement aussi, parce que c'est ça qui va faire que vous arriverez aux manettes pour qu'on change de cap. Voilà. Donc je m'arrête là. J'ai fait le temps qu'il fallait. Bravo. Et oui, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.